Les chemins de la sagesse, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour Michel.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Alors, sur les chemins de la sagesse, c'est l'un de vos livres, Michel Théron, publié aux éditions BOD et disponible chez tout libraire, il faut le dire. Michel Théron, nous avons dépassé dans notre lecture la moitié du livre et nous abordons la question des régressions.
Voilà, la régression. Alors, il y a deux aspects de la régression. Elle est consécutive à la crise de la mi-vie dont nous avons parlé lors d'une émission précédente. Arrivé au milieu de la vie, l'homme se trouve bloqué parce que ce qu'il a désiré, il l'a obtenu, mais peut-être que des désirs profonds en lui n'ont pas été satisfaits. D'où une sorte de névrose, un état de stagnation, de piétinement sur place, qui peut lui donner envie de régresser, mais alors de régresser au sens négatif. Et je répète, il y a deux phases de la régression, une phase positive et une phase négative. Parlons de la phase négative. Il s'agit d'un désir de blottissement, comme dans une matrice, un blottissement fœtal, et ce désir affecte beaucoup d'adultes dont le désir secret n'est que de retourner dans le giron maternel, hein, au royaume de Dieu qui nous est promis, mettons dans l'évangile, ils préfèrent le royaume des mères. Les mères, ce nom sonne étrangement, dit le Faust de Goethe. Hein. Et aussi, ce désir de régression, c'est un désir de mort, hein, dormir, mourir. Donc c'est ce que l'on appelle, ce qu'on dit en grec, Thanatos. Thanatos, la mort, le désir de mort qui s'oppose à Eros, au désir de vie. Et alors j'avais cité la fable grecque concernant Achille. Achille était vulnérable par où sa mère l'avait tenu. Hein. Donc tout homme est vulnérable par où il tient à sa mère, par justement ce désir de régression dans le sein maternel. C'est un désir mortifère, un désir d'arrêt, hein, un désir de faire du surplace, une fixation totalement infantile. On veut inconsciemment retrouver le cocon protecteur, à la fois celui de la vie intra-utérine et celui que l'on fantasme à propos des tout débuts de la vie. Et la vie n'est pas assumée dans l'indépendance et le détachement des liens, qui sont des arrachements nécessaires pour continuer à vivre, justement la vie est parasitée par ce désir d'arrêt ou de mort. Alors, toutes les sagesses insistent sur ce point. Et elle critique l'attachement au lien du sang. Prenons le cas en Occident du texte évangélique, dans Luc, au chapitre 11, verset 27-28, voici ce qu'on lit. « Jésus parlait encore quand une femme se mit à lui dire, du milieu de la foule, « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. » Et Jésus répondit, « Heureux plutôt sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Alors vous voyez, Guylaine, contre la nostalgie de la matrice, hein, le ventre et les seins, eh bien c'est l'écoute de la parole qui va nous sauver, hein, d'après Jésus. Hein, garder la parole, la respecter et la mettre en pratique. La parole pour le croyant, évidemment, concerne la parole de Dieu. Pour l'agnostique, qui est mon cas, hein, je dirais que c'est le langage. Et le langage a une fonction séparatrice par rapport à l'immédiateté de l'instinct, à l'immédiateté des désirs. Le langage opère par relais, la médiation des mots. Hein. Ce sont les mots qui permettent la rupture avec la zone pulsionnelle, puisque la représentation dans les mots chasse la présence effective des choses. Les mots, je le répète, sont des médiations, des relais qui tiennent lieu des choses et ils permettent de voir plus loin que le présent. Il y a donc un pouvoir de lieutenance du langage, lieutenance tenir lieu, hein, et on comprend comment s'édifie face au monde et à la pression des instincts tous les dispositifs culturels qui ont pour but de lutter contre cette zone instinctuelle. Grâce au langage, on peut penser à l'avenir, demain je ferai cela, donc on n'est pas prisonnier du présent. Et c'est cette notion de perspective, de vision de l'avenir, qui est à la base d'ailleurs de toutes les cultures. Hein. J'ai bien insisté là-dessus dans mon livre « La culture générale expliquée », les clés pour comprendre, qui est paru aussi chez BOD, hein, dans le premier chapitre. Hein. La nature, elle, pousse l'homme à satisfaire immédiatement ses moindres désirs. Hein. On dit « chacun est entraîné par son plaisir »,« traitsua quamque voluptas » en latin. Hein. Bon, mais au contraire, le langage fait intervenir la pensée anticipatrice, la représentation du futur, qui s'appuie sur la médiation des mots et permet de mettre à distance le monde pulsionnel. Alors, pour m'en tenir à mon sujet, qui est celui de la sagesse et de la régression, hein, eh bien, c'est par le langage que l'on va progresser positivement et non pas régresser négativement. Hein. De toute façon, c'est ce qui caractérise l'humain. Pour autant que nous le sachions, voyez, Guylaine, par rapport aux animaux qui n'habitent que l'instant, que le présent, l'homme peut penser à demain. Hein. L'homme n'est pas qu'un réflexe instinctuel, il est capable de sacrifices consentis pour un bénéfice escompté dans le futur. Par exemple, si dehors il fait très beau, comme aujourd'hui, j'ai envie d'aller me promener, mais je reste chez moi, mettons, pour préparer un examen. Ça veut dire que la perspective de la réussite future combat justement mon envie immédiate. Hein. Donc, je sacrifie certaines choses dans le présent au bénéfice de ce que j'attends pour l'avenir. Donc, je diffère les satisfactions. Donc, c'est ça qui caractérise l'homme. J'aime toujours les jeux de mots et je dirais que l'homme est une différence différente, qui diffère justement ce que veulent en lui les instincts. Alors, je ne sais pas votre avis, Guylaine, je voulais vous poser la question. Peut-être cette nécessité de la séparation par la parole est-elle plus masculine que féminine? Je ne sais pas.
Les deux, mon capitaine.
Ah, bon, ben voilà. Je disais, bon, il faudra que je révise mon idée, que la femme transmettant la vie est plus viscéralement en prise et en connivence avec la vie.
Hein. Ah oui.
Et oui.
Et avec la parole, alors?
Et alors, de ce point de vue, la parole, qu'on peut voir comme l'origine et l'incarnation de la loi, hein, anthropologiquement parlant, c'est une rupture souvent avec le portage maternel, je mets portage entre guillemets, dont il est nécessaire de s'émanciper, en quelque sorte. Hein. C'est l'homme plus masculine, alors serait l'énonciation de la loi par rapport au désir de régression dans le sein maternel. Bon, je donne cette hypothèse pour ce qu'elle vaut. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait identité de rôle entre le masculin et le féminin, mais je conçois tout à fait qu'on puisse penser autre chose. Alors, le prologue de l'évangile de Jean dit de la même façon qu'on doit naître non pas du sang, de la matrice, hein, mais de l'écoute de la parole ou du verbe. Hein. Et ainsi, l'écoute donc de cette parole nous permet de devenir enfants de Dieu. C'est Jean chapitre 1, verset 13. Hein. Et quant à la famille qui est désignée par les liens du sang, il faut avec elle une rupture radicale. Vous voyez ce que dit l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 26. « Nul ne vient à moi s'il ne hait, du verbe haïr, son père et sa mère. » Le mot grec est très fort, c'est « misein » que vous avez dans « misanthrope », c'est-à-dire « celui qui déteste les hommes hein, », « misein ». Bon, donc ça veut dire « haïr hein. ». Donc la famille est condamnée par Jésus radicalement. Hein. Je pense à la forte parole du poète Éluard à propos de Violette Nozière, qui avait tué ses parents, hein, qui avait voulu se débarrasser de ses parents, et lui a dit « elle a réussi à défaire l'affreux nœud de serpent des liens du sang ». Vous voyez, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Par parenthèse, je ne vois pas pourquoi l'Église catholique, au moins celle dont je viens, fait encore la Sainte Famille. Je ne sais pas s'il y a la même chose chez les protestants. Bon, parce que effectivement, une telle parole, elle est d'une grande radicalité. Alors, maintenant, je vais passer à un tout autre sujet, un tout autre aspect de la question. Il faut beaucoup, bien sûr, se méfier dans nos vies de la régression au sens de retour dans la matrice. Mais l'Évangile nous dit aussi qu'il faut accueillir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Vous voyez, comme un petit enfant. Par exemple, vous voyez Marc, chapitre 10, verset 15. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pourquoi y a-t-il d'abord une nécessité de progresser avec un détachement des liens? Et deuxièmement, une nécessité de revenir à l'enfance? C'est que, en fait, et là est la clé de la question, il y a deux enfants. Il y a en réalité deux enfants. Il y a l'enfant infantile, cet enfant infantile, justement, c'est ce que restent beaucoup d'adultes jusqu'à leur vieillesse et leur mort. Hein. Et l'enfant spirituel, au contraire. L'enfant spirituel, c'est celui, par exemple, qui peut sauver l'adulte de la dépression de la mi-vie. Hein. Et de la même façon, il y a deux régressions. La régression subie, lieu fermé dans l'illusion embellissante et falsificatrice. Et la régression choisie, celle qu'on décide de faire, non pas comme dans le rêve éveillé du somnambule qui est sidéré par ses visions et ses fantasmes, lieu grand fermé, Ice Wide Shut, par exemple, comme le dit le dernier film de Kubrick, hein, bon. Mais au contraire, les yeux grands ouverts, lucidement. Si on fait la régression à les yeux ouverts, lucidement, alors nous serons sauvés, et cette régression s'effectue dans la deuxième moitié de la vie. On décide alors de faire la redescente. J'avais pris l'image du soleil qui, dans la première moitié de la journée, s'élève jusqu'au zénith, et ensuite doit redescendre pour s'enfoncer derrière l'horizon. Eh bien, l'homme, c'est la même chose. Une fois qu'il est arrivé au milieu de la vie, il doit accepter la redescente. Et si cette redescente se fait volontairement, cette régression, dit Carl Gustav Jung, elle fléchit même le cœur des dieux. Vous voyez, bon, c'est très poétique. Hein. Alors, vers quoi est-ce que l'on décide de faire retour ? Vers l'enfance, c'est-à-dire vers un état d'insouciance, de naturel et aussi de grande lucidité. Il y a certains proverbes qui me hérissent. Hein. On dit toujours « retomber en enfance ». Moi, je pense qu'il vaudrait mieux dire « remonter en enfance hein. ». Comme le saumon qui revient vers le lieu de sa naissance, hein, vers la source où il a pris vie, avant de trouver sa propre mort. Qu'est-ce qu'il vaut mieux être dans la vie ? Un bois mort charrié au fil du courant, allant à volo, hein, ou bien un saumon vivant, remonter en enfance. Bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de vieillir, ça c'est inévitable, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. Devenir vieux, c'est tout autre chose, hein. C'est abdiquer, hein. Tandis que ce retour à la source intérieure, à la source perdue, mais retrouvée, que l'on fait dans la deuxième moitié de la vie, c'est quelque chose, c'est un scénario qu'il faut bien appliquer.
C'est un scénario inconscient.
C'est un scénario volontaire. Inconscient, non. Ce qui est inconscient, c'est la régression négative. On ne se rend pas compte de ce qui nous tire en arrière. Mais décider de redevenir enfant, c'est quelque chose de c'est un choix.
Mais concrètement, ça va se représenter comment?
Eh bien, on va écouter une chanson de Serge Lama, hein,
voilà.
qui justement vient.
Vous allez pouvoir faire de la radio, Michel.
exprime justement cette régression choisie et volontaire. Il en donne certains détails, certaines modalités.
Alors on écoute Serge Lama.
Mon enfance m'appelle sur des plages de sable. Mon enfance m'appelle sur des plages dorées. Sur elles sont venus s'inscrire impitoyables de nombreuses années. Qu'ai-je fait, qu'ai-je dit, qui suis-je en ce pays? Quelle neige est déjà tombée dans mes cheveux? Les hommes ne sont-ils nés que pour devenir vieux? Mon enfance disparue, quel était le nom de ma rue? Qu'ai-je fait, qu'ai-je dit, qui suis-je en ce pays? Quelle fleur a courbé sa tige sous mes pas, que je sois tombé tout à coup aussi bas? Mon enfance, prends ma main, puisque tu es sur mon chemin. Mon enfance m'appelle sur des plages de sable. Mon enfance m'appelle sur des plages dorées. Sur elles sont venus s'inscrire impitoyables de nombreuses années. Qu'ai-je fait, qu'ai-je dit, qui suis-je en ce pays? Quel espoir de départ vers des lieux inconnus, pour oublier plus tard qui je suis devenu? Mon enfance revenue, dis-moi. dites-moi, qui suis-je devenu? Qu'ai-je fait, qu'ai-je dit, qui suis-je en ce pays? Quelle éternelle nuit se lève dans mes yeux? On récolte l'ennui quand on a ce qu'on veut. Oh mon enfance, quelle envie d'aller chez toi finir ma vie. Mon enfance m'appelle sur des plages de sable. Mon enfance m'appelle sur des plages dorées. Sur elles sont venus s'inscrire impitoyables de nombreuses années.
Mon enfance m'appelle de Serge Lama, joliment amené par Michel Théron pour illustrer le souhait d'une personne âgée à revenir en enfance.
Voilà, remonter à la source perdue, hein. Et d'ailleurs, justement, Serge Lama, dans son texte, dit l'essentiel, il dit « qui suis-je devenu hein ?» On récolte l'ennui quand on a ce qu'on veut, à un moment, hein. C'est exactement ce que nous avons dit à propos de la crise de la mi-vie. Je vous signale que ce retour à la source intérieure fait l'objet d'un autre livre que j'ai fait, toujours chez BOD, qui est paru chez BOD en 2017, c'est « La source intérieure », avec une belle préface d'André Gounel, hein, qui a compris le côté un peu de retour, un peu gnostique, puisque la gnose a toujours affirmé que la vie était une dégradation, mais conjurable par le retour à l'état d'enfance. Et même si André, un de mes amis, donc qui m'est très cher, n'est pas tout à fait sur cette même option, qu'il pense plutôt un dynamisme créateur de Dieu, et pour lui, la terre promise vers laquelle on va n'est pas l'Éden dont on est sorti, il a quand même m'a fait l'amitié de préfacer ce livre, ce dont je le remercie du fond du cœur. Alors, s'agissant de l'enfance, on ne peut pas tromper un enfant, hein. L'enfant s'amuse, bien sûr, mais il ne s'abuse pas, hein. L'enfant ne se paie pas de mine, hein. Rien de tel qu'un enfant pour voir le décalage qu'il y a, par exemple, entre le discours de l'adulte et son comportement, hein. Quand l'enfant est turbulent, on lui dit d'être sage, mais je pense que l'enfant a naturellement cette sagesse profonde qui est le regard franc et droit porté sur toute chose, et par voie de conséquence, la destruction de ce que j'appellerais l'universelle comédie. L'enfant a un regard simple, c'est-à-dire un regard non enténébré, non embrouillé par les supputations, les tergiversations, les procrastinations. C'est un mot savant, hein, qui veut dire le fait de toujours remettre au lendemain les choses, procrastiner, hein. Toutes ces choses-là sont le fruit de l'adulte, et l'adulte est souvent divisé. Il est encombré de doutes et de projections néfastes, et c'est une situation véritablement diabolique. Si l'on se souvient que « diable » vient du grec « diabalein » qui veut dire « diviser »,« diabolos », le diviseur. Hein. Le diable, c'est le diviseur, celui qui s'aime livrer dans le champ, hein, ou bien le désordre dans une communauté humaine, ou bien l'indécision dans un cœur. Vous voyez, le diable, c'est le diviseur. L'adulte est divisé. Mais l'enfant ne l'est pas. L'enfant s'ouvre naturellement sur la vie et sur tout ce qui est devant lui. Voyez toutes les initiatives qu'il prend et que les adultes lui interdisent au prétexte des dangers qu'elles peuvent entraîner, hein, ces initiatives. Ce sont les adultes qui sont en fait paralysés par leur propre peur qu'ils projettent sur leur progéniture. Et d'un être naturellement confiant, comme est l'enfant, ils font un être méfiant en sapant les envies d'exploration qu'a l'enfant, au nom de cette sagesse rancie dont Bernanos nous dit qu'elle est le vice des vieillards. Mmh. Alors là, vous êtes d'accord, hein, j'ai écrit alors un autre petit livre qui s'appelle « Marge du livre » chez BOD, qui sont des actualisations de la Bible, et il y a une scène que j'ai vue sur l'esplanade à Montpellier, et à propos de laquelle j'ai fait un petit texte que je me permets de vous lire. Ça s'appelle « Les massacres ordinaires ». Il vient vers moi, me sourit de toutes ses dents. Il a quitté sa balançoire, il a vu sûrement quelque chose sur le banc où je suis assis. Peu importe, le sourire sanctifie l'automne et le jardin public. « Viens ici, laisse tranquille le monsieur. » La voix est aigre, criarde, rompue la magie, brisée l'enchantement, et à la parole se joint le geste. Sans ménagement, une main tire l'autre, la grande entraîne la petite, tout le bras est arraché. La brutalité est telle qu'il titube. Peut-on rudoyer les anges ? Reste là, ne bouge pas, etc. Je n'écoute plus. Je pense à ce qu'on m'a dit à moi aussi. Ne parle pas à des inconnus, garde réserve et modestie, baisse les yeux, détourne le regard, sois comme les grands. Si chacun se sourit sans se connaître, où ira-t-on ? Oui, où ? Sois normal. Normal ? Ignorer son prochain, ne rien voir, la cécité est-elle normale ? Sinon, de quoi est-ce qu'on aurait l'air ? Mais de quoi avons-nous l'air ? Des pleurs, soudain, mais qu'as-tu donc à tomber ? Fais attention, évidemment, les pleurs redoublent. Regarde, tu t'es tout sali, et j'aurai à te laver ce soir. Tiens, tu l'as bien mérité. La gifle ne s'occupe pas de la souffrance de la chute, et s'il s'était fait mal en tombant ? Les adultes tuent les innocents, ne pouvant trouver celui qu'ils cherchent, qui se dérobe, qu'ils ont perdu eux-mêmes, avant. De dépit, ils entrent en grande colère, ils se vengent. Mais de tout cela, ils ne se doutent pas. Parents, éducateurs, professeurs, vous assassinez tout ce qui est à votre merci. Qui cherchez-vous donc avant ? Et qui donc mettez-vous à mort faute de l'avoir trouvé ? Laissez-moi rêver ou cauchemarder. Aujourd'hui, j'ai entendu des cris, des pleurs et de grandes lamentations. Ce cauchemar est sans fin. Tous ces enfants, ce massacre des innocents, peut-on en guérir ? Et je n'ai pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Une feuille tombe sur mon livre, c'est bien l'automne, déserte la vie, s'installe la mort, le ciel déjà ne sourit plus, pas plus que l'enfant qui est venu vers moi. Alors vous avez noté qu'il y a des passages bibliques dans le texte, que je mets en italique dans le texte imprimé. Je m'inspire en effet de Matthieu chapitre 2 verset 16 sur le massacre des innocents. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Mon livre est une réécriture de certains passages bibliques à ma façon, hein, de façon littéraire et poétique, une réactualisation de la Bible. Hein, et là, j'ai appelé ça les massacres ordinaires, en souvenir du massacre des innocents. C'est quelque chose que j'ai vu sur l'esplanade à Montpellier. Un enfant qui est même tombé et la mère s'est pas demandé s'il s'était fait mal. Elle lui a dit « tu t'es tout sali ». Enfin, vous voyez qu'il n'en voit jamais. Par exemple, une vache qui donnerait des coups de corne à son veau qui se serait étalé dans une mare. Hein. Bon, non, mais la mère, là, agit d'une façon pire que celle d'un animal, non ? Vous ne croyez pas, Guylaine ? Alors, donc, ces enfants, vous savez comment ils viennent vers vous avec un beau sourire et une confiance, mais vite les parents disent non, 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 on fait pas ça. Voilà. Alors ce livre qui s'appelle Marge du livre et le tout sous-titre c'est Fiction biblique, il est disponible chez BOD et il s'agit, comme je l'ai dit, d'épisodes bibliques repris à ma façon, réactualisés. Ce sont des scènes vues et réécrites. Voilà. Alors, donc, l'enfant a la confiance en lui, hein, et cette confiance, les adultes la lui enlèvent la plupart du temps. Il y a une parole de Sénèque que j'aime bien. Sénèque dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Vous voyez, hein. Donc, nous manquons de confiance. Voilà. Hein. Et à cette parole de Sénèque fait écho ce que dit Scapin chez Molière. Je hais ces âmes pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre, vous voyez, hein. Ou alors je pense à Hamlet chez Shakespeare, qui, dans son fameux monologue qui commence par être ou ne pas être, to be or not to be, nous dit à la fin, ainsi la pensée fait de nous des lâches, hein. Nous pensons trop et nous sommes paralysés. Mais c'est l'adulte qui dit toujours à quoi bon, hein, et jamais l'enfant, hein. L'enfant n'est pas, comment dire, dire, prisonnier de ce doute qui assiège l'adulte. Alors, à la fin donc de mon livre sur les chemins de la sagesse, dont nous parlons dans cette série d'émissions, j'ai mis une petite anthologie. Et cette petite anthologie poétique comprend justement des textes qui illustrent ce que je développe de façon professorale dans le livre. Alors là, je prends le texte de Baudelaire qui s'appelle « L'avertisseur hein. ». Tout homme digne de ce nom a dans le cœur un serpent jaune installé comme sur un trône qui, s'il dit « je veux », répond « non ». Plonge tes yeux dans les yeux fixes des satyresses ou des nixes. La dent dit « pense à ton devoir ». Fais des enfants, plante des arbres, polis des vers, sculpte des marbres. La dent dit « vivras-tu ce soir ?» Quoi qu'il ébauche ou qu'il espère, l'homme ne vit pas un moment sans subir l'avertissement de l'insupportable vipère, vous voyez ? Donc, mais ça, c'est une vision d'adulte. C'est l'adulte qui se pose toujours des questions, hein. L'enfant, lui, il va de l'avant, hein. Vous voyez, Guylaine, je pense que plutôt que de se vanter comme l'homme le fait souvent avec forfanterie, se tape la poitrine, etc., hein, en oubliant ses réelles faiblesses et incapacités, l'homme n'est vraiment fort, il ne devient vraiment adulte que s'il arrive à triompher du saboteur qui est en lui. Et pour cela, il doit prendre leçon sur l'enfant, hein, dont l'enfant n'est pas, dont le regard n'est pas ainsi obscurci et empêtré pour entreprendre quoi que ce soit. Il a un regard simple, comme le dit le texte évangélique, le texte de Luc, chapitre 11, verset 34. Hein, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est simple, en grec haplous, hein, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. Pour le en mauvais état, le grec a poneros. Et dans le texte néo-testamentaire, l'épithète du diable, c'est le malin, poneros. C'est bien poneros, le malin. Vous voyez. Donc par parenthèse, il faut que si vous regardez votre Bible, chers auditeurs, j'espère, bon, vous n'aurez pas l'œil simple, vous aurez un œil en bon état. Or, le texte grec porte l'œil simple, vous voyez, hein. Donc, effectivement, en français, c'est un peu bizarre, l'œil simple. Et pourtant, j'aime beaucoup ça. L'enfant a un corps simple, un regard simple, il simplifie les choses et il voit lucidement les choses telles qu'elles sont, les adultes tels qu'ils sont. Certains parents voudraient que l'enfant, par exemple, il réussisse bien à l'école, mais qu'il soit encore tout petit chez lui. Or, c'est pas possible. Si un enfant comprend certaines choses à l'école, il comprendra certaines choses chez lui. Hein. Bon, il verra, par exemple, le décalage entre ce que les parents disent et ce qu'ils font, etc. Hein. Donc, il n'y a pas de poids de mesure, là. On ne peut pas séparer les deux expériences. Et alors, donc, si l'homme arrivait à la mi-vie, n'a plus d'illusions, ne se paie plus d'illusions et de faux semblants, s'il voit lucidement d'un œil simple la vie d'adulte pour ce qu'elle est très souvent, une capitulation, bon, alors l'homme va faire la même constatation que n'importe quel enfant qui n'est pas encore perverti par ce qu'on appelle les grands, hein. Mais aussi, ce regard de l'enfance, c'est celui même de l'enfant que l'homme porte en lui, l'enfant intérieur. Il y a en nous un enfant intérieur, et c'est cet enfant intérieur qui va pouvoir nous sauver. C'est ce que toutes les spiritualités et sagesses du monde appellent le puer aeternus, l'enfant éternel. Hein. Toutes les religions en parlent de cela. Hein.
Juste retrouver cet enfant-là.
Voilà, retrouver l'enfant en soi. C'est pour ça qu'on comprend alors comment Jésus peut à la fois critiquer la famille qui nous tire en arrière, hein, et en même temps faire l'éloge de l'enfance qui nous permet d'entrer dans le royaume. Sinon, on comprend pas, hein. Sinon, ça fait contradiction. Mais c'est précisément en opposant ces deux enfants, l'enfant spirituel et l'enfant infantile, que l'on comprend cette aporie, cette difficulté. Je pense à Lao Tzu, dans son Tao Te King, hein, il se compare à un nourrisson qui tète encore sa mère. Hein. Vous voyez, il est vieux, Lao Tzu, quand il écrit ça. Hein. Cela vient d'un vieux sage qui a beaucoup réfléchi sur la vie, hein, et cela montre bien la différence entre une régression qui est subie dans l'infantilisme et une régression qui est le fruit d'un choix volontaire. Alors, je ne sais pas si je vous ai convaincu, Guyenne. Dernier point, on me traite souvent de pessimiste. Je viens de dire que toute vie d'adulte est une capitulation. Mais on oublie que je donne, non pas le remède, mais une piste pour échapper à ça, hein, pour conjurer ce refroidissement, cette entropie. Donc, je ne suis pessimiste qu'au départ des choses. Hein. Mais ensuite, je pense qu'en écoutant l'enfant en nous, nous pourrons faire notre résilience, notre résurrection au sens psychologique du terme.
Merci Michel. À bientôt.
Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.